Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Echo sur Judaïka, une émission que vous pouvez également retrouver sur YouTube et dans différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir, Nicolas Vado, bonjour.
Bonjour.
Pour les auditeurs, les spectateurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes dessinateur politique, dessinateur de presse. On vous lit, on vous regarde dans le vif, on vous voit également tous les jours dans l'écho, ainsi qu'une rétrospective hebdomadaire. Et la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que vous publiez le 9 avril prochain un album, une rétrospective des 4 années Vivaldi. Alors, on va en parler aujourd'hui des premières de la première saison. On va se rappeler ce qu'ont été les années 2020-2021. Et puis, la semaine prochaine, on va se retrouver pour parler de la suite et de la fin de cette période Vivaldi. Nicolas Vado, ma première question, c'est le Covid, la période Covid. Est-ce que pour la Vivaldi, peut-être vous pouvez nous rappeler les personnages principaux de la Vivaldi, mais est-ce que le Covid, ça a été une chance ou pas une chance pour le
Je ne sais pas si ça a été une chance, mais ça a été, la crise Covid a été un accélérateur, en tout cas, puisque si ça paraît très loin, mais c'était il y a 4 ans. Si vous vous souvenez, Charles Michel part au Conseil européen, Sophie Wilmès devient première ministre en affaires courantes, puisqu'on n'arrivait pas à former un gouvernement, c'était en octobre 2019. Et puis elle est en affaires courantes, K1, KA. Vous vous souvenez de ces gesticulations innombrables pour essayer de former une coalition, on n'y arrive pas. Et puis en mars arrive le Covid. La Belgique a besoin d'avoir un gouvernement qui prend des décisions et des décisions drastiques. Sophie Hulmès s'est investie des pleins pouvoirs qu'elle a pour quelques semaines et ensuite qui vont aller jusqu'à pendant quelques mois, jusqu'à octobre, début octobre 2020, où on pense que la crise Covid est passée, puisque souvenez-vous, après le premier confinement, les chiffres étaient très bas, l'été allait plus ou moins, on se disait que tout allait bien. On ne pensait pas que le pire était devant nous en termes de confinement, de restrictions de liberté, tout ça. Et donc, la Vivaldi arrive à ce moment-là. Et donc, la crise Covid a été un accélérateur pour ce gouvernement Vivaldi qui s'est donc mis en place après quand même un an et demi après les élections. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça a été un vrai gouvernement de plein exercice qui a dû gérer cette crise totalement inédite.
Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit, et c'est ce qu'on va retrouver dans votre album que j'ai pu lire et regarder en priorité ou en primauté, c'est que vous venez de parler de Charles Michel, de Sophie Wilmès, il y en a d'autres que vous pourriez citer, c'est des personnes qu'on a connues il y a 4 ans, on les a oubliées, et il n'y a pas si longtemps, ils reviennent au devant de la scène, notamment Charles Michel.
Et notamment Sophie Wilmès, qui doit à chaque fois remplacer Charles Michel quand il y a un problème à l'Europe, hein. Sauf que là, c'est dans l'autre sens. C'est vrai que c'est des personnages qui sont récurrents. Quand on est dessinateur de presse, on joue avec des personnages qui sont récurrents, qui reviennent. Certains ont des têtes. Charles Michel, il a une tête de croc. C'est plus compliqué parce qu'il a un physique un peu passe-partout. J'ai réussi à l'avoir à force, hein. Mais c'est intéressant. Et quand on travaille en quotidienne et en hebdomadaire comme je le fais, c'est-à-dire que je publie à peu près 500 dessins par an, forcément, il n'y a pas grand-chose qui, sur le long terme, va m'échapper. C'est-à-dire que quand je dois faire un recueil sur une législature entière comme celle-ci, j'ai choisi une centaine de dessins, mais rien que sur la politique belgo-belge, j'en avais de quoi faire 3 bouquins entiers. Hein.
Et donc, c'est un livre que vous n'avez pas prévu ou préparé au fur et à mesure des 4 années qui viennent de s'écouler. C'est un bouquin que vous avez conçu il n'y a pas tellement longtemps à partir de vos dessins de presse des 4 dernières années.
Oui, en fait, l'idée de faire ce livre m'est apparue en juin 2023, au moment de ce qu'on a appelé l'Iran Gate et au moment des auditions de Adjal Habib en commission parlementaire, où elle s'est faite, si vous vous souvenez, hachée menu pendant une semaine, non seulement par l'opposition, mais encore plus par les partis de sa propre majorité. J'ai regardé ces auditions non-stop, sachant que je devais dessiner dessus après. Il me restait à peu près une heure et demie pour faire le dessin dessus. Et je me suis dit, ben, là, il y a quand même une matière, parce que je trouvais que ces auditions étaient symptomatiques de ce qu'a été la Vivaldi. C'est-à-dire que les pires ennemis de la Vivaldi n'étaient pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la Vivaldi. C'est ça qui était intéressant. En plus, Adjal Habib, qui est une novice en politique, puisque avant ça, elle n'y était pas, et elle a eu son baptême du feu. Et quel baptême du feu ! Cette Iran Gate, en plus, était symptomatique de la Belgique, puisqu'il y avait des différents niveaux de pouvoir qui se sont tirés dans les pattes. Souvenez-vous que la responsabilité première était de Pascal Smet à la région bruxelloise, et puis ensuite c'est monté au fédéral. Plusieurs ministres étaient impliqués dedans, et ça a toujours été comme ça. C'est compliqué la Belgique, mais la Belgique avec la Vivaldi, c'est encore plus compliqué.
J'ai oublié de vous demander de montrer à la caméra la couverture de ce bouquin qui sort dans une semaine.
Alors, il y a une histoire assez amusante. Pierre Sessouk, qui est mon graphiste, a une très bonne idée parce que la couverture initiale, c'est ça. C'était en quatrième de couverture et on voit une montgolfière de la Vivaldi. Et j'avais prévu ce dessin-là en quatrième de couverture. Et Pierre, mon graphiste, qui est mon graphiste depuis toujours, il m'a dit « Mais en fait, en faisant la couverture, je trouve que ça, ce serait mieux en une parce que c'est plus drôle, c'est plus joyeux, c'est plus printanier puisque c'est un bouquin de printemps. » Et donc, au dernier moment, on a inversé. J'ai demandé à mon distributeur ce qu'il en pensait. Il m'a dit « Oui, en effet, c'est beaucoup plus efficace. » Et c'est vrai, quand on met des personnages sur une couverture, en général, c'est beaucoup plus intéressant.
Il y a certains personnages dans ce bouquin, dans votre travail de tous les jours, qui sont admirablement dessinés. Je ne sais pas si on doit dire caricaturés, mais en tout cas, ils sont admirablement expressifs et ça nous fait très fort réfléchir. Si on avance petit à petit dans le bouquin, en page 5, on vous parlait des temps modernes. En quoi cette période vous fait-elle penser au temps moderne? Je suppose qu'il y a une allusion à Chaplin.
Alors, il y avait l'allusion à Chaplin, au film de Chaplin, mais c'est surtout que ce motif du Covid, c'est devenu un élément graphique en lui-même. Et en fait, le personnage du Covid, je me suis aperçu à un moment qu'il ressemblait à une de ces grandes roues qu'il y avait dans les temps modernes de Chaplin. Donc, il n'y a pas... quand je fais un dessin comme ça, je ne dis pas que les temps d'aujourd'hui ressemblent aux temps modernes tels que les imaginait Chaplin. Mais ce que je montre, c'est un Premier ministre qui est complètement pris par la machine. C'est « Welcome to the machine » de Pink Floyd, quoi. Et qui est pris dans cette machine et qui a une clé à molette pour essayer de s'en sortir. Mais cette déferlante du Covid est plus forte que lui et il essaie de s'en tirer petit à petit. Parfois, quand on fait du dessin de presse et même en quotidienne, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je fais de plus en plus confiance à mon instinct et à mon intuition. Et parfois, j'ai des images mentales qui sortent comme ça, boum. Et je me demande pourquoi est-ce que cette image mentale sort à ce moment-là. C'était le cas ce jour-là pour les temps modernes de Chaplin. Et je me dis comment je peux raccrocher ça en faisant vraiment confiance à mon instinct et à mon inconscient quasiment pour que ça devienne ensuite une image qui va être vue ensuite par des gens qui lisent le journal.
Ça me permet de faire le lien avec un de vos dessins qui est un tout petit peu plus loin en page 13. C'est le général de Gaulle.
Oui.
Pourquoi faites-vous intervenir Charles de Gaulle dans la Vivaldi ?
Alors, ce n'est pas dans la Vivaldi, c'est là, on est en 2021.
Déjà.
C'était la boum. Si vous vous souvenez, il y a eu la boum 1, 2, 3, 4. C'était des manifestations pacifiques pour la plupart de jeunes au Bois de la Cambre, parce qu'on sentait que la jeunesse n'en pouvait plus de ces confinements arbitraires et qu'elle voulait sortir, s'amuser. Elle avait l'impression qu'on avait sacrifié cette jeunesse pour sauver des baby-boomers, ce qui n'était pas totalement faux. Et on était en avril, il faisait beau, on n'était pas loin du mois de mai. Et on se disait qu'il y avait comme une sorte de mai 68 qui allait arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai dessiné De Gaulle qui dit « ça sent la chienlit » parce que je faisais un rapport avec mai 68. Ce mai 68 n'a pas eu lieu. Mais là aussi, en tant que dessinateur de presse, je vais faire des parallèles entre l'histoire et l'actualité. Puisqu'un dessinateur de presse, c'est un peu un historien du quotidien. Il faut un peu connaître son histoire. Et je trouvais qu'il y avait des éléments qui ne se sont pas avérés finalement, qui mettaient en rapport ce qui se passait en mai 68 et ce qui se passait en 2021, pour cette jeunesse qui n'en pouvait plus d'être sacrifiée sur l'autel du Covid.
Donc, il ne faut pas relier le dessin de Charles de Gaulle aux grands hommes qui feraient défaut, qui ne feraient pas défaut en Belgique. C'est juste une référence à 68.
C'était une référence à mai 68.
Alors, en page 16 et 17, et vraiment, j'invite tous nos auditeurs et nos spectateurs à acquérir ce bouquin. C'est vraiment, moi, c'était une délectation. On arrive au foot, à tout l'univers du foot. Il a été important dans ces 4 années.
Alors, c'était amusant parce que c'était l'Euro 2020 qui a eu lieu en 2021, mais on l'a quand même appelé l'Euro 2020. Et c'était assez tôt. Il y a eu les Jeux Olympiques après de 2020 qui ont eu lieu en 2021 aussi. C'était quand même assez étonnant. Moi, j'ai toujours aimé traiter le sport. Je pensais que je traitais très peu le sport. Et il y a un jour quelqu'un qui a fait un travail académique pour analyser mes dessins et il a comptabilisé que le sport représentait 10% de mes dessins, ce qui n'est pas rien du tout quand même. Et c'est vrai que j'utilise très souvent le sport comme métaphore du monde, le football notamment, parce que le football est un miroir grossissant de la société. Sur une heure et demie d'un match de football, vous avez tout. Vous avez la justice, vous avez l'injustice, vous avez la vox populi, vous avez la vie en miniature, parce que parfois ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent, parfois ce sont les tricheurs qui gagnent, parfois ce sont les bons, parfois pas. Vous pouvez avoir des retournements de situation, c'est comme une vie complète, sauf qu'au bout d'une heure et demie, ben vous n'êtes pas mort, parce que la vie continue. Donc le temps s'arrête, et c'est pour ça que j'utilise très souvent le football. Et le football est un outil de soft power très important. On l'a vu, on le voit de plus en plus, on l'a vu avec la Coupe du Monde au Qatar, on le voit avec ce qui se passe maintenant en Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite a vocation à devenir un grand championnat en attirant des stars vieillissantes, mais de moins en moins vieillissantes, avec des fortunes diverses, parce qu'on voit que pour certains, comme Karim Benzema, ça ne se passe pas très bien.
Sauf que la fortune, il se l'a fait, si je peux me permettre.
La fortune, il se l'a fait, mais sportivement, ça ne va pas. On voit Marco Verratti qui pense peut-être revenir en Europe parce que le niveau de jeu n'est pas bon. Cristiano Ronaldo qui n'a plus le niveau qu'il avait avant. Mais c'est très intéressant de voir à quel point le football est une métaphore du monde dans ses plus belles choses, mais aussi dans ses pires travers.
En page 17, je crois, vous dessinez des hommes politiques belges. Il y a le Premier ministre, il y a Sophie Wilmès et il y a une troisième personne face à Joe Biden. Il y a un t-shirt de Lukaku. Je pensais au départ qu'on verrait peut-être le roi Philippe, la princesse Mathilde.
Il est là.
Ils y sont plus loin.
Non, il est dans ce dessin-là, le roi Philippe.
C'est le roi Philippe, voilà. Donc c'est pas Biden. Qui est plus facile?
Non, il y a Biden, mais il y a le roi Philippe devant lui qui est avec Sophie Wilmès et Alexander de Croo.
Qui est plus facile à dessiner, Mathilde, Philippe ou Lukaku qui n'est pas dessus?
Non, Lukaku, il est très difficile à dessiner parce que Lukaku a un physique et un visage. À la fois, c'est un, vous voyez le physique de déménageur qu'il a,
oui,
mais il a un regard très doux. Donc, il a à la fois une mâchoire très carrée, c'est vraiment le bulldozer, mais il a un regard très doux et c'est très difficile d'arriver à avoir les deux. Donc, il n'est pas facile à faire, Lukaku. Biden, c'est beaucoup plus simple. Il ressemble à Mr. Magoo. C'était un personnage de dessin animé que je regardais quand j'étais enfant. Le roi Philippe, ce n'est pas très compliqué non plus. Il suffit de lui mettre une couronne et on comprend. Et Sophie Wilmès, ce n'est pas difficile à faire.
J'ai écouté une interview de Tedesco, l'entraîneur fédéral belge, qui disait en gros que Lukaku est une crème et qu'il est vraiment dévoué à toute son équipe. Et voilà. Il était très content de le retrouver, mais c'est un autre débat.
Mais c'est une crème de 100 kilos de muscles, hein, quand même.
Arrivons un peu plus loin aux inondations, principalement en Wallonie. Vous avez un super dessin avec l'aide de la Flandre à la Wallonie. Et pourtant, la Flandre se plaint tous les jours qu'elle aide trop la Wallonie, à concurrence, paraît-il, de 1800 euros par citoyen par an, alors qu'en Allemagne, c'est même la solidarité est même plus importante. Je reviens aux inondations. Le GIEC que vous exprimez à plusieurs reprises, il est trop alarmiste, selon vous ou pas?
Alors, il y a débat. J'en ai déjà discuté avec Van Ipperzeel qui disait « Parfois, on nous reproche de ne pas être assez alarmiste ou d'être trop alarmiste. » En tout cas, je pense que l'écologie punitive à la Greta Thunberg ne fonctionne pas. C'est-à-dire, si vous faites peur aux gens, ils ne vont pas vouloir changer. Si vous leur dites « demain, c'est un cataclysme », ils ne vont pas vouloir changer. Et en fait, je trouve qu'il y a une sorte de confort intellectuel à se dire que demain, ça va être la catastrophe, parce qu'en fait, on ne peut qu'être agréablement surpris si ça va mieux. Et donc, je pense que si on veut s'en sortir, et on va s'en sortir parce que l'homme s'en est toujours sorti, eh ben, il faut des discours peut-être un peu plus positifs par rapport au climat, sans du tout dire qu'il n'y a pas de problème avec le climat. Mais la technologie pourra aider, pas toute seule, parce que je ne suis pas du tout un techno-béat, mais je ne suis pas non plus un technophobe. Et je pense que par rapport au climat, il y a une prise de conscience évidente que le climat change, mais il ne faut jamais oublier que l'être humain s'est toujours adapté et va continuer à s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire du tout. Hein. Isoler correctement les maisons, par exemple, c'est quelque chose de très important. Mais de là à interdire aux gens de prendre l'avion, quand Jancovici dit qu'il faudrait qu'on ait le droit de prendre 4 fois l'avion dans sa vie, c'est une vision totalement européocentrée. Demandez à des Australiens de prendre 4 fois l'avion dans leur vie. Moi, j'ai de la famille en Australie. Si je prends l'avion 4 fois dans ma vie, je les vois combien de fois dans ma vie? C'est quelque chose que je trouve très européocentré parce qu'en Europe, évidemment, on fait des sauts de puce, il y en a dans un autre pays. Donc, je pense que par rapport au climat, il faut évidemment changer pas mal de nos habitudes, mais ce n'est pas en disant « How dare you ?» à des baby-boomers grâce auxquels, par ailleurs, Greta Thunberg peut aller à l'école. Ça, c'est quand même quelque chose, même si elle n'y allait plus. C'est pas en opposant les générations qu'on va y arriver.
Eh bien, Nicolas Vavado, un grand merci. On est arrivé aux 15 minutes qui sont imparties au Club Echo. Mais bonne nouvelle, on va se retrouver la semaine prochaine, qui sera précisément le jour de la publication de votre album « Les années Vivaldi ». Et la semaine prochaine, on va discuter des deux dernières années principalement de cette législature. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans une semaine. Merci Nicolas.
Merci.